suis Agnès, professeure de yoga, biologiste et docteur en neurosciences, et je suis très heureuse de te retrouver sur le podcast « Ta blessure, ta chance ». Que tu sois un sportif assidu qui a déjà connu la frustration des douleurs chroniques ou de la blessure, ou bien que tu débutes le sport et que tu t'interroges sur la prévention des douleurs, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je t'accompagne dans la gestion et la prévention des douleurs récurrentes et des blessures sportives grâce aux outils du yoga, des neurosciences et de la physiologie du sportif. Moi-même passionnée de sport, j'ai connu la frustration des blessures à répétition avant de découvrir les différents outils du yoga. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser mes compétences et mon expérience pour aider les sportifs qui font face à des douleurs récurrentes ou à des blessures à s'épanouir dans leur activité sportive. Bonjour, bienvenue pour la troisième et dernière partie de l'interview de Véronique Hyacinthe, naturopathe et masseuse à Toulon et pratiquante de yoga. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite vivement à les écouter avant de poursuivre. Et si c'est déjà fait, c'est le moment de connaître la fin de notre interview. Donc, je pourrais m'embarquer dans une alimentation sans sucre, mais je ne suis pas du tout adepte des alimentations, des aliments interdits. Souvent, c'est source de frustration et c'est quelque chose que je trouve plutôt délétère qu'autre chose. Donc, comment est-ce que je peux trouver le juste équilibre? Et est-ce que c'est possible de consommer du sucre en quantité raisonnable? Et surtout, comment est-ce que tu as des petits tips pour ça?
Oui, alors l'équilibre, c'est vrai que c'est un de tes sujets de prédilection. Et en fait, dans la vie, tout est question d'équilibre. Il y a le concept jour-nuit, le yin, le yang en médecine chinoise. Dans notre corps, tout doit être gardé en équilibre pour rester en bonne santé. Mais l'équilibre, ça ne veut pas dire immobilité. Ce n'est pas une immobilité statique, mais une série constante d'ajustements et d'ajustements conscients, enfin inconscients. Le corps, nous, on ne s'en rend pas compte, mais le corps, il le fait naturellement. Et en matière d'alimentation, ce sera des ajustements conscients. Et comme quand on pratique le yoga, en fait. Quand on voit ce fameux guerrier 2 qui part immobile, figé, eh bien, à l'intérieur, on se rend bien compte que tous nos muscles vont bouger, nos articulations. Et pour retrouver, il y aura des micro-déséquilibres. Et notre cerveau, automatiquement, va, par l'intermédiaire de nos muscles, va nous aider à garder cet équilibre. Donc, l'équilibre, c'est une série d'ajustements. Il faut bien garder ça en tête. Et chaque personne donc, doit trouver son propre équilibre qui convienne à son mode de vie et à ce besoin nutritionnel. Alors, non seulement, bien sûr, pour optimiser ses performances sportives, mais aussi, comme pour tout le monde, pour sa journée de travail, dans le but donc, d'arriver à la fin de sa journée sans être complètement épuisé et se jeter sur un produit sucré dès qu'on rentre à la maison. Donc, en matière de sucre, eh bien, il s'agit de trouver l'équilibre entre ce que j'appelle plaisir et conscience. Parce que ouais, le sucre, c'est un aliment plaisir. Mais pour avoir une bonne et belle vie, comme diraient certains philosophes, il faut savoir la vivre en conscience. Et donc, pouvoir réduire, soit supprimer, mais déjà réduire un plaisir immédiat en sachant que plus tard, on va avoir un bienfait, un meilleur bienfait, même si on ne le voit pas tout de suite. Donc, même si l'attirance pour le goût sucré est innée, et innée depuis la naissance, donc il ne faut pas s'interdire de façon drastique tout ce qui est sucré comme le chocolat ou les gâteaux. Parce qu'on se dit dans sa conscience, c'est mauvais pour la santé, j'en prendrai plus. Parce qu'en fait, quelque part, on va se stresser. On va ajouter du stress au stress ambiant. Donc, ce qu'il vaut mieux éviter. La vie, c'est aussi un petit plaisir.
Je rebondis sur le fait que le goût sucré, c'est inné, tu as raison. Contrairement, par exemple, à la mer, on sait que les bébés n'aiment pas le goût amer. Oui. Par contre, et oui, le sucré, on l'aime. C'est quelque chose. Donc, c'est s'en priver complètement, ça n'a pas réellement de sens.
Non.
Et est-ce que tu peux nous donner rapidement trois astuces pour consommer du sucre avec plaisir, mais modération?
Voilà. Et c'est là où le principe de conscience prend tout son sens. tout son sens, parce qu'on va utiliser nos cinq sens. Donc, on ne mange pas qu'avec ses dents, sa bouche et son système digestif. On va aussi manger avec son cerveau et ses sens. Et mange, ce qui va nous aider non seulement à manger, mais à savourer et à déguster. Donc, quand je parle des sens, eh bien, il y a l'odorat, hein, l'odeur du chocolat ou de la tarte aux pommes qui sort du four. Il y a la texture. On va sentir sous nos dents croquer une pomme juteuse ou une fraise, la texture grumeleuse de la fraise. On va, par exemple, la crème de marron qui a peut-être une saveur terreuse, l'acidité d'un agrume comme le pamplemousse. Donc, toutes ces saveurs différentes vont interpeller nos sens de façon différente. Et être attentif à ces sens va nous permettre notamment de faire attention à sa faim et surtout à son rassasiement. C'est-à-dire quand on mange quelque chose, au début, ça nous fait énormément plaisir. On va commencer une part de gâteau au chocolat, les premières bouchées vont être, je dirais carrément parfois, orgasmiques. N'exagère pas. Mais au bout de 10 bouchées, ben voilà, le plaisir va diminuer. Et en fait, c'est à ça qu'il faut faire attention, que lorsque le plaisir diminue, eh bien, il est temps de se dire, je vais arrêter. On n'est pas obligé de terminer sa grosse part de gâteau qu'on nous a servi et de se dire, j'arrête quand je ressens moins de plaisir. Donc, alors, à la question, est-ce qu'il est raisonnable de prendre un carré de chocolat ou pas? Eh bien, la réponse est oui, bien sûr, dans la mesure où on va le déguster. Parce que déguster ou savourer du chocolat va permettre d'en prendre, d'éviter les frustrations et surtout de ne pas se ruer sur la tablette entière quand on est complètement stressé. Donc, une autre astuce pour les accros au chocolat, comme nous, Agnès et moi. Ce que je fais parfois, donc voilà, c'est un petit budget, mais bon, ça vaut la peine. Donc, je vous conseille d'acheter plusieurs tablettes de bon chocolat noir, je précise, tout à plus de 70%. On peut même aller jusqu'à 95%, même 100%. Alors, 100%, moi, j'ai du mal, c'est vraiment amer.
Alors,
Mais
même moi, à partir de 85, j'avoue,
voilà.
j'ai du mal.
Chacun met son curseur où il veut, mais voilà, 70, 75, 80, moi je dirais allez, 80, en moyenne 80. Et donc, il existe du chocolat avec des fèves d'Équateur, de Madagascar, d'Éthiopie. Donc, c'est toujours du chocolat noir, mais ils ont chacun un petit goût différent. Donc, vous pouvez varier les plaisirs au sein de la palette du chocolat noir. Et ce qui va vous permettre de déshabituer progressivement votre palais du goût sucré. Ça, c'est. Par rapport au chocolat, c'est une bonne astuce. Et puis, au niveau des confitures, ceux qui aiment les confitures, il y a des confitures rapides à faire, qui sont des confitures de maison, des confitures qu'on fait soi-même, de fruits secs. Il suffit en fait de faire tremper des fruits secs, comme des abricots secs, par exemple, ou des pruneaux dénoyautés. On les fait tremper une journée ou une nuit. Et ensuite, on va les égoutter et on va les mixer. On va les mixer, on peut les manger soit comme ça, nature, ou en rajoutant, voilà, par exemple, de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette, un hachis de gingembre confit, quelques gouttes de fleur d'oranger. Et donc, mettre ça dans un pot en verre. Et voilà, ça se conserve facilement une bonne semaine au frigidaire. Donc, ce sera du sucre, effectivement, mais du sucre naturel. Donc,
Ah,
ça peut
merci pour la
être.
recette.
Avec plaisir. Et donc, si on rajoute à cette purée de fruits secs, des poudres d'amandes ou de noisettes, eh bien, il y aura les protéines et les graisses des amandes et des noisettes qui vont un peu tamponner au niveau de la glycémie. Donc, c'est encore meilleur. Et puis, ça changera un petit peu de goût. La poudre d'amande avec des fruits secs, des abricots secs, par exemple, c'est absolument, à mon avis, délicieux. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu as d'autres astuces pour consommer le sucre avec plaisir mais sans excès?
C'est ça, je vous ai parlé de savourer. Donc, pour savourer, eh bien, ça prend du temps. Donc, prendre du temps à table est important. Dans la mesure du possible, donc je sais que parfois on a 20 minutes, une demi-heure, ou un jour on est pressé, on mange son sandwich, pardon, devant l'ordinateur. Mais l'idéal serait de prendre une demi-heure de pause, au moins une demi-heure, et de prendre le temps de manger. Donc, ça permet d'être conscient de ce qu'on mange et de mâcher. Mâcher est très important parce que ça aide au sentiment de satiété qui ne va s'enclencher qu'au bout de 20 minutes environ. La satiété n'arrive au cerveau Environ au bout de 20 minutes. Donc, plus on va manger lentement, eh bien, moins déjà on mangera, et ce qui permettra d'arriver à ces fameuses 20 minutes. Alors, on dit 20 minutes, je pense qu'on arrive à satiété avant 20 minutes, parfois même au bout de 10 minutes, on le ressent. Et on peut faire des pauses pour manger plus lentement en posant ses couverts. On mange quelques bouchées et consciemment on se dit, maintenant je pose ma fourchette et mon couteau et je termine ce que j'ai dans la bouche avant de reprendre ces couverts. Donc ça, c'est une petite astuce qui est bon, consciente, mais qui peut être utile pour les gens qui terminent avant tout le monde, parce qu'une fois qu'ils ont commencé, voilà, ils mangent en mode automatique. Et puis, je pourrais rajouter une troisième astuce, c'est de s'autoriser, ben, comme tu dis, une douceur pour le plaisir et sans en faire un drame. Si un jour, eh bien, il y a quelqu'un qui apporte au bureau des croissants ou un gâteau d'anniversaire, eh bien, le manger, mais avec plaisir, en toute convivialité, et surtout ne pas se culpabiliser parce qu'on a mangé une grosse dose de sucre à 10 heures ou à 4 heures. Et il suffira, en fait, le corps, normalement, va réguler ça, va le compenser au repas suivant où on aura besoin de moins manger. Que la gourmandise fait partie des plaisirs de la vie et il faut surtout ne pas les refuser. Donc l'équilibre alimentaire, eh bien, ça se réalise au cours d'une journée, voire au cours d'une semaine.
Et justement, je voulais rebondir là-dessus par rapport voilà, au cerveau, par rapport à ces petites douceurs, comme tu dis. Le cerveau est parfois un peu biaisé et il a tendance à favoriser les récompenses immédiates. Donc, par exemple, bah, le paquet de M&M's, à la récompense à long terme qui est, comme on l'a dit, cultiver une bonne santé. Et ça, c'est surtout vrai dans des périodes de fatigue, dans des périodes de stress ou dans des moments où on ressent des émotions désagréables. Donc là, on va passer un peu à cette partie émotionnelle. Comment est-ce que on peut gérer cet aspect plus émotionnel par rapport au rapport au sucre, justement?
C'est vrai qu'il y a le rapport au sucre, le rapport sucre émotionnel est très important et très fréquent surtout chez les femmes. Et en fait, il faut savoir que les récepteurs de la langue, hein, enregistrent la présence de sucre qu'ils vont transmettre directement au cerveau. Donc, le cerveau va dire, ah, il y a du sucre qui arrive, et cela va augmenter le taux d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, qui est le neurotransmetteur du plaisir. Également la sérotonine, qui est le neurotransmetteur de la bonne humeur. Donc, dès qu'on va manger un carré de chocolat, au lait ou noir, eh bien, on va ressentir, mais de façon pratiquement immédiate, une sensation de bien-être, de plaisir, bien sûr, mais de bien-être. Et à la fois physique, et puis dans le cerveau, c'est comme un système de récompense. On se fait
Oui,
plaisir
c'est le
et
système de
ça,
récompense, hein, tout à fait.
c'est ça, c'est ça. Donc, alors, en cas de stress, de fatigue, comme tu l'as évoqué, mais aussi pour tout problème d'origine émotionnelle, que ce soit l'ennui, la frustration, la tristesse, eh bien, le réflexe souvent immédiat, c'est de manger du sucre. Donc, du sucre sous forme de biscuits, de chocolat, pour avoir justement cette sensation de bien-être immédiat et qui va aussi anesthésier nos émotions. Donc, ça peut anesthésier nos émotions, combler un vide. Ça peut nous donner du courage avant de commencer un travail difficile, voire nous consoler d'une déception ou tout simplement nous accorder un répit, une douceur. Après avoir passé 2 heures sur son écran, on fait une pause et on pourrait juste s'accorder un thé. Eh bien, voilà, on peut s'accorder aussi un thé et un petit biscuit au chocolat. C'est comme je l'ai dit, il ne faut pas s'en. Le refuser, mais il faut essayer de faire attention au niveau du côté émotionnel, pour que ça ne devienne pas un réflexe, surtout de manger en quantité. Donc, il y a une espèce d'une échelle de grandeur, si on peut dire. Quand vous êtes addict au sucre, eh bien, vous pouvez vous en rendre compte parce que vous mangez souvent sucré et vous ne pouvez plus vous en passer. C'est tous les jours, il vous faut du sucre. Ou alors, le soir, vous commencez la plaquette de chocolat en disant allez, un ou deux carrés devant la télé. Et puis, vous vous rendez compte, à la fin du film, vous avez mangé toute la tablette, vous ne pouvez même plus vous arrêter. C'est comme si quelque chose vous poussait, malgré tout, à continuer à manger. Parfois, quand vous n'avez plus de chocolat ou plus de sucre, enfin, plus de biscuits dans vos placards, eh bien, c'est un peu comme les addicts à la cigarette, quand ils n'ont plus de cigarette. L'idée d'en manquer vous angoisse. Ça, c'est vraiment un signe que vous êtes addict au sucre. Voilà, dès que, même si vous n'avez pas faim, vous allez manger du sucre juste pour vous faire du bien, voilà, pour avoir quelque chose en bouche, quelque chose de sucré. Et vous sucrez systématiquement tout, que ce soit votre café, votre thé, votre yaourt. Certains rajoutent systématiquement du sel sur leur plat. Eh bien, les addicts au sucre vont rajouter du sucre. Donc ça, c'est... Alors, peut-être qu'on n'a pas tous ces symptômes, mais même si on a un ou deux de ces critères, eh bien, c'est qu'on est déjà bien addict au sucre. Et qu'il ne sert à rien de remplacer tous ces sucres par des édulcorants, parce que ça ne changera pas du tout le problème. Alors... Tu parlais donc de cet aspect émotionnel lié à la consommation de sucre. Et donc, pour arriver à s'en détacher et à en être conscient, eh bien, ça va passer obligatoirement par une forme, ce que j'appelle, de déprogrammation de l'équation sucre égale plaisir. Et cela passe donc par la nécessité de réapprendre à écouter son corps et à savoir écouter son corps et ses émotions. Donc, son corps, ça peut être sa faim. Ouais, ses besoins nutritionnels, mais aussi ses émotions, et d'arriver à identifier le moment critique. Donc, c'est le moment critique où on va basculer dans la pulsion. La pulsion alimentaire, c'est plus fort que soi. Voilà, on est trop stressé. Il faut tomber manger du sucre. Effectivement, la nourriture, quelle qu'elle soit, mais la nourriture surtout sucrée, est liée d'abord à soi et à la relation, aux relations que l'on a avec soi. Et on a remarqué qu'il y avait souvent un lien entre une difficulté vécue dans la journée et le comportement alimentaire de la soirée. Parce que le fait de manger du sucre, pareil pour l'alcool, lui aussi va se transformer en sucre, et bien le fait de manger du sucre va calmer, va nous rassurer et va calmer le stress, quel qu'il soit. Mais le problème, c'est que plus on est stressé et moins on va faire attention à soi. Et donc, moins on va être apte à reconnaître ses émotions. Et pareil, plus on s'interdit un aliment, plus on craque. Donc, dans le cerveau, c'est comme si notre mental dit non, non, je ne mangerai pas de sucre, et qu'il y a un petit bonhomme, un petit saboteur dans notre cerveau qui, lui, va toujours gagner, va être plus fort et va nous faire craquer. Tout ça, quand on est sous
Et du
forme.
coup,
Le stress.
concrètement, on fait comment pour mieux gérer cet aspect émotionnel par rapport au désir du sucré et éviter de tomber dans la compulsion dont tu parles?
Alors voilà, la compulsion, c'est ce qu'on appelle l'état à chaud. Quand on est à chaud, qu'on est dans le truc, voilà, on peut plus rien gérer. C'est essayer donc de s'habituer à gérer le sucre à froid. Donc quand on n'est pas encore dans un état émotionnel incontrôlable par rapport au sucre. Et la première chose à faire, c'est essayer de planifier vos repas à l'avance, justement pour éviter les choix impulsifs lors des fringales. Et donc avoir dans son placard des aliments, par exemple dans son frigo, des yaourts, du fromage, dans son placard on va dire des biscottes ou des biscuits peu sucrés. Et puis aussi prendre un vrai repas à midi. Donc, un vrai repas, c'est au moins un plat qui comprend des protéines, des glucides et des bonnes graisses, qui va être rassasiant et donc qui va nous permettre voilà, de moins avoir de plus avoir faim dans l'après-midi. Et puis, si malgré tout vous avez faim, eh bien, ayez dans votre sac ou dans votre tiroir là où vous travaillez, un sachet avec une portion d'amandes et de fruits secs. Donc, qui va vous permettre de manger quelque chose, mais quelque chose de sain, lors d'une baisse éventuelle de régime en fin de journée. Et ça évitera de vous jeter sur n'importe quoi, par énervement ou fatigue, ou d'aller prendre au distributeur automatique une barre chocolatée avec un café sucré. Donc, ça, c'est des petites astuces pratico-pratiques qui paraissent simplistes, mais qui, sur la durée, ont vraiment un impact. Donc, être conscient de faire un vrai repas à midi et puis de ne pas se trouver à court de bonnes choses à manger comme les fruits secs, par exemple. Parce que Il faut savoir que le sucre appelle le sucre. C'est-à-dire que plus on va manger du sucre, plus on va avoir de envie de sucrer. Et plus le corps va avoir des difficultés à ressentir les signaux de satiété. Donc,
Alors, comment je fais du coup? Parce que c'est vrai que c'est piégeux tout ça.
Tout à fait. C'est
On
très
voit bien que
compliqué.
c'est compliqué. C'est très compliqué.
Je reconnais que c'est
Comment
complexe.
est-ce que je fais
Alors,
concrètement?
voilà. Alors, concrètement, quand on arrive à chaud, dans le moment critique, eh bien, et ça, au yoga, on le fait souvent, pour retrouver son calme, eh bien, on peut penser à respirer. Donc, et à respirer de façon consciente. Parce que quand on respire calmement, donc le calme de notre souffle va rentrer dans notre corps, mais aussi va avoir un impact sur notre esprit et va permettre à notre émotionnel de s'apaiser peu à peu. C'est comme si on se mettait sur le mode pause. La respiration égale, je l'appuie sur la touche pause. Donc c'est juste notre corps, on va respirer. Ça, vous pouvez faire vraiment le test. Juste prendre quelques respirations tranquilles, ça va mettre de la distance entre nous et nos émotions.
Et alors moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles aussi. Est-ce que tu as des choses à nous
Effectivement.
conseiller par rapport à ça?
Oui, voilà, j'allais en parler. Une astuce par rapport à la respiration, c'est d'utiliser un flacon d'huile essentielle. Alors, une huile essentielle qui va être à la fois harmonisante et calmante, qui va avoir des effets de détente. Moi, je vous conseille soit la lavande, soit l'huile essentielle d'orange douce, enfin, l'essence d'orange douce, comme vous préférez, donc plutôt lavande, plutôt agrume. Et vous en avez deux ou trois flacons hein, dans votre sac à portée de main. Un sur votre bureau et pourquoi pas un sur la table de votre cuisine. Donc, en fait, dans des endroits où vous risquez justement de craquer. Et quand vous sentez le stress arriver, eh bien, la première chose à faire, plutôt que de piocher dans son paquet de bonbons, que vous n'avez pas, bien sûr, c'est de déboucher ce flacon et de prendre soit de respirer juste le bouchon, de le passer sous notre nez, voire, pour être plus discret, de mettre une goutte d'huile essentielle à l'intérieur du poignet et de respirer discrètement cette odeur, cette bonne odeur. Donc, vous allez respirer de façon régulière et profonde. Et vous verrez, l'effet vraiment est assez magique, puisque très rapidement, donc les molécules aromatiques vont se propager du nez au cerveau et apporter donc cette détente et ce relâchement qui va permettre donc au système qu'on appelle parasympathique de se mettre en route et de se calmer, en fait, va réguler l'ortho et le parasympathique. Donc, en fonction d'où vous êtes, voilà, vous le faites de façon discrète, inutile de, pas besoin de fermer les yeux. La détente va se produire quand même. Donc, la respiration, avec l'aide d'une huile essentielle ou pas, c'est une technique de base, dans de nombreux cas d'ailleurs. Et donc, ça peut permettre, comme je vous le disais, de provoquer cette distance et de retrouver un certain calme. Il y a un exercice aussi. Oui?
Non, 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 j'allais
Oui,
justement te demander si tu avais d'autres
oui.
rapidement pour voilà pour terminer cette partie, si
Oui.
tu avais d'autres conseils, d'autres axes en fait
Oui.
à nous communiquer.
Oui. Pour rester sur la respiration, il y a différentes techniques de respiration, dont une s'appelle la cohérence cardiaque. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est assez à la mode actuellement. Donc, c'est une façon de respirer de façon régulière et constante. On inspire en comptant entre 3 et 5. Au début, vous commencez par 3 quand on n'est pas habitué, mais bon, l'idée, c'est de compter jusqu'à 5 en inspirant, faire une petite pause d'une seconde à peu près, et d'expirer également en comptant sur 5, donc de façon calme et régulière. Pour vous aider, vous pouvez visualiser, par exemple, une bulle qui monte et qui descend, comme une courbe qui monte et qui descend, sur le rythme de votre inspiration et de votre expiration, et de faire ça pendant au minimum 1 minute. Et voilà, on conseille 5 à 6 minutes pour un effet optimal, mais 1 minute, c'est déjà bien. Et voilà, je vous conseille de faire cet exercice. C'est vraiment ça peut être une aide.
Je ne peux qu'approuver. On utilise, alors ça ne s'appelle pas la cohérence cardiaque en yoga, mais exactement le même genre de respiration. Ce que j'utilise aussi beaucoup personnellement, c'est le journaling, donc le passage par l'écriture, la méditation. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on pourrait utiliser aussi par rapport à la thématique d'aujourd'hui?
Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est aussi une technique intéressante, en tout cas sur le long terme. Donc, une autre façon de prendre conscience de la façon dont notre émotionnel impacte notre consommation sucrée, c'est le journaling, comme tu dis, donc de tenir un journal, mais pas un journal de ce qu'on a fait dans la, oui, de ce qu'on a fait dans la journée ou de nos pensées, mais un journal alimentaire émotionnel. Donc, l'intérêt, c'est pas de j'ai mangé une tartine de sucre, j'ai mangé un dessert. Oui, vous pouvez l'écrire, mais c'est surtout d'écrire l'émotion liée à ce que vous avez mangé. Bien sûr, par rapport au sucre, hein, pas par rapport à tout le reste. Donc, vous notez sur un carnet toutes les émotions désagréables qui ont été liées à votre consommation de sucre et aussi les circonstances qui ont déclenché ces émotions. Voilà, sans jugement, mais quand vous avez mangé, pas de culpabilité. Voilà, je suis rentrée du travail, j'ai mangé la moitié du paquet de Pépito parce que j'en pouvais plus, je me suis engueulée avec ma collègue. Et il fallait que je me calme. Voilà, pof, vous notez. Et ça, vous le faites le plus souvent possible à chaque fois qu'il y a eu ce stress qui a provoqué une compulsion. Et quand vous êtes à la fin de la semaine ou le dimanche, vous relisez tranquillement tout ce qui a été écrit dans la semaine. Et vous allez vous rendre compte, certainement, qu'il y a des choses qui se recoupent, que c'est toujours au même moment qu'il y a cette compulsion, que vous allez et que vous mangez toujours du sucré, toujours des quantités incontrôlables, et que c'est toujours à cause, par exemple, de cette collègue. C'est un exemple. Donc, pour comment dire, désamorcer ce problème, ben c'est en fait d'aller parler à la collègue et de dire, voilà, quand tu me dis ça, c'est un peu là aussi la communication non violente,
C'est ce que j'allais dire, ouais.
Voilà, quand tu me critiques sans arrêt parce que peu importe la raison, je ressens ton mépris, par exemple. Voilà. Et de pouvoir le dire, ça peut, donc c'est vraiment un travail personnel, là, qu'on engage, mais ça peut aussi être une aide au niveau émotionnel et au final, eh bien, nous guérir de ces pulsions quand on a bien ciblé, la cause. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a plein et c'est vraiment une aide. Voilà. Ça va vous aider à vous faire prendre conscience de vos schémas répétitifs et donc de vous en éloigner donc par la respiration, mais aussi par le régler certains conflits relationnels. Non seulement avec soi-même, mais avec les autres.
D'accord, et du coup, la méditation, j'imagine, ça va aussi bien dans ce type
C'est
de
ça.
démarche.
Via la méditation, ça peut être une méditation consciente comme la marche consciente. On n'est pas obligé de
Oui,
rester
c'est
assis
vrai.
sur son coussin. On peut marcher en conscience et en réveillant
Oui.
tous ses cinq sens. Écouter les bruits de la nature, le vent, les oiseaux, les branches, enfin, le vent dans les branches. Sentir l'odeur, voir la sensation du soleil sur sa peau. Ça aussi, c'est une façon d'être conscient de son corps. Voilà, méditation et marche.
D'accord.
Des bons conseils, Agnès. Oui, tu as raison.
Est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire pour clôturer cette partie?
Alors, oui, peut-être une chose qui s'inspire, que j'ai, voilà, qui peut s'inspirer de l'Orient, pas de l'Ayurveda en particulier, mais de l'Orient en général. C'est l'art, en fait, l'art de faire bien les choses, de faire les choses dans les règles de l'art. En Orient, il y a la cérémonie du thé ou la composition d'un bouquet floral, par exemple. Donc, des choses simples, mais qui demandent beaucoup d'attention, de temps, de bien faire les choses. Donc, sachant que, bien sûr, il est préférable de manger de bonnes choses à des heures régulières, donc grignoter, comme je vous l'ai dit, ne doit pas être culpabilisant. Et quand vous ressentez le besoin d'une pause sucrée, eh bien, faites les choses donc, dans les règles de l'art, à savoir préparez-vous une belle théière. Je veux dire, quand vous voulez manger des biscuits, ben, vous faites aussi un thé avec vous. Mais non seulement vous préparez un plateau avec une jolie tasse, la théière, vous n'ouvrez pas juste le paquet de biscuits, vous les mettez sur une belle assiette. Et puis, vous prenez le temps de les déguster tranquillement, assis. Et peut-être même devant un beau paysage. devant la fenêtre qui donne sur votre jardin, ou devant le vase avec un bouquet de fleurs qu'on vous a offert il n'y a pas longtemps. Donc, c'est aussi une façon de tout apprécier et en fait de privilégier un moment de calme et de plaisir, en sachant qu'il faut garder à l'esprit qu'on ne se sent pas plus heureux après s'être goinfré de sucreries. Donc, on se sent
C'est
plus
une
heureux.
jolie phrase,
Voilà.
une
Oui.
phrase intéressante.
On croit qu'on va se sentir mieux. Alors, peut-être qu'on va se sentir mieux là dans l'instant, à la seconde, mais très rapidement, on va se sentir mal, et physiquement, et émotionnellement. Donc,
Oui, donc
oui.
on peut se répéter comme un mantra. On ne
Oui.
se sent pas plus heureux après s'être goinfré de sucreries, c'est très vrai.
C'est ça. Mais par contre, avoir fait une pause avec quelques biscuits et un bon thé au jasmin, un parfum au jasmin, ça fait du bien à tout niveau. Voilà, ce serait mon dernier conseil pour prendre des bonnes
Écoute,
habitudes.
oui, c'est vrai. Alors, je t'avais demandé en amont des deux petites recettes. Je les mettrai dans les commentaires, ces recettes, parce qu'on a déjà parlé longtemps. C'est un épisode hyper riche avec plein de conseils. Donc, je noterai, donc pour avoir accès à ces recettes, je noterai ça dans les commentaires de l'épisode. Et juste avant de clôturer cette interview, est-ce que tu as d'autres éléments que tu veux nous partager et qu'on n'aurait pas abordé ici?
Oui, alors eh bien pour reparler un petit peu de moi, je vais vous expliquer un peu ce que je fais. Et surtout au niveau, bien sûr, du sujet du sucre, parce que le sujet du sucre, des grignotages sucrés, m'intéresse particulièrement, vu que j'ai été moi-même à une certaine période de ma vie confrontée donc, à des moments de stress importants qui, moi aussi, me poussaient à me jeter sans retenue sur n'importe quoi de sucré en fin de journée. Donc je connais bien le problème. Et donc non seulement ces produits sucrés, et puis les kilos voilà, je fais à peu près une dizaine de kilos de moins que ce que j'ai pu faire il y a quelques années dans cette période compliquée de ma vie. Et j'ai pu m'en détacher progressivement par des prises de conscience et dans des changements dans ma manière de vivre et de voir les choses, surtout de voir les choses. C'est important. Et donc maintenant, j'ai à cœur d'aider des personnes qui traversent le même genre d'expérience et qui souhaitent retrouver le plaisir de manger au quotidien, donc d'une part, tout en perdant les kilos qui leur gâchent la vie, mais surtout à retrouver un calme émotionnel. Donc, je les aide à identifier leurs émotions, découvrir comment agir efficacement, donc sur les causes qui entraînent leur grignotage compulsif. Donc, j'ai une approche
Oui,
qui...
parce que ici, je voulais juste rebondir sur le fait que tout ce qui est grignotage compulsif, tout ce qui est alimentation émotionnelle ne va pas forcément avec un problème de poids. Hein.
C'est
Suivant
vrai.
les natures, par
Complètement.
exemple, bah, si on est chez les personnes Vata, notamment, pour refaire référence à l'Ayurveda, moi, je sais que ça m'arrive des fois de manger de manière émotionnelle, d'avoir fini le paquet de gâteaux, je ne sais même pas déjà pourquoi j'ai commencé, mais voilà, bah, en cas de stress, et je me dis,
Ça.
bon, en soi, c'est pas grave, mais c'est juste que je me sens pas forcément mieux après et je me dis j'aurais mieux fait de me faire un truc un peu plus sain et sans associer à ça un problème de poids. Donc, tu peux aussi, j'imaginais, accompagner sans forcément de problème de poids, juste accompagner pour cette
Complètement.
alimentation émotionnelle.
Complètement. C'est
D'accord.
souvent lié à un problème de poids, mais pas obligatoirement, effectivement. Et donc, comme je l'ai dit, de toute façon, le sucre, c'est mauvais pour la santé, même si ça ne fait pas grossir certaines personnes, effectivement. Et donc oui, comprendre les déclencheurs émotionnels, ça fait partie de mon approche pour mieux gérer son sucre et sa façon de manger. Donc, je propose donc un suivi régulier, donc à la fois un coaching personnalisé et avec des stratégies pratiques comme un plan nutritionnel qui est adapté à la personne, à son rythme de vie, ses modes alimentaires qui diffèrent d'une personne à l'autre et qui est donc basé sur la réduction progressive du sucre en complément donc de l'intégration d'aliments nutritifs pour soutenir son bien-être physique et mental et son énergie. Donc, retrouver en fait une meilleure santé, une meilleure énergie, à la fois physique et mentale. Et voilà, et donc ce soutien émotionnel, donc ça passe par des techniques de gestion du stress, donc de marche consciente parfois, les huiles essentielles, je sais que toi aussi tu connais bien les huiles essentielles, que tu l'utilises en tout cas dans les cours de yoga. Les huiles, il existe des huiles essentielles. Donc j'ai évoqué la lavande et l'orange douce, mais il y en a d'autres, dont les molécules aromatiques ont des effets vraiment harmonisants, relaxants et qui ont un réel impact sur les émotions. Voilà,
Très bien,
donc c'était
écoute,
ce que je voulais préciser.
je mettrai toutes les références. Si on veut te joindre, bien sûr, elles seront pareil, en commentaire du podcast. Toutes les références pour te joindre seront accessibles. Est-ce que tu as
Merci.
des ressources à conseiller aux auditeurs? C'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu as des, voilà, ça peut être des livres, des vidéos, un site à nous conseiller?
Oui, alors un livre par exemple que je trouve intéressant, c'est un livre inspirant qui s'appelle L'art de la frugalité et de la volupté. Donc ça rejoint justement cette notion de plaisir tout en restant conscient. Et là, bon, pour elle, ça passe par la frugalité. Donc c'est un livre qui a été écrit par Dominique Leroux. Donc c'est une femme qui a vécu très longtemps au Japon. Je crois qu'elle est prof de français au Japon. Et donc, elle s'inspire de l'art et de la philosophie orientale, enfin, japonaise en particulier, donc avec un tas de conseils et d'astuces pour reconstruire son rapport à la nourriture et retrouver un plaisir vrai. Donc, c'est facile à lire, c'est très intéressant, il y a des recettes très faciles à faire. Et donc, voilà, plein de choses inspirées, un peu ben, voilà, comme le plateau de thé avec la belle, voilà, qui allie l'esthétique, la beauté, le zen. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un livre que je
D'accord, donc
conseillerais.
je
Alors,
répète,
je...
l'art de
Oui.
la frugalité et de la volupté de Dominique Leroux.
Voilà, c'est ça. Elle a écrit d'autres livres, par exemple, L'art de la tranquillité, l'art de... Je sais plus, l'art de bien ranger sa maison. Je ne sais pas ce titre-là, mais en tout cas, l'art de la tranquillité existe. Donc, toujours dans ce même état d'esprit, de faire bien les choses dans une idée de beauté et de... Toujours pour le bien-être, pas que alimentaire. Mais bon, l'art de la frugalité et de la volupté, ça concerne uniquement l'alimentation. Si tu veux, tu m'as proposé un site. Alors, il y en a tellement que c'est vraiment difficile à choisir. Donc, j'en ai pris un. Un que je trouve intéressant concernant la glycémie. Et surtout parce que c'est une Française, mais qui a étudié aux États-Unis et en Angleterre. Et elle est à la fois, je crois qu'elle a fait des études scientifiques en général, je crois qu'elle est biochimiste. Et elle explique tout ça de façon très ludique. Donc c'est un style un peu personnel, on aime ou on n'aime pas, mais ouais, c'est très ludique. Et donc elle donne plein d'astuces pour garder une glycémie stable. Donc bien sûr, elle parle du sucre. Et oui, alors ce
Parfait,
site, il parle
merci
pas mal en
pour
anglais,
cette
mais bon,
ressource.
voilà, c'est un site qui est à la fois anglophone et francophone.
Et on termine par la dernière question du podcast. Si tu avais un conseil ou un enseignement à transmettre sous forme d'une phrase à nos auditeurs, quelle serait-elle? Quelle
Alors,
serait-elle?
c'est peut-être pas un enseignement, mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Enfin, moi, voilà, je vous ai trouvé cette phrase, c'est le sucre est parfois le délice qui embellit le présent, mais sous ses déguisements alléchants, le sucre est notre meilleur ennemi. Ne l'oubliez pas. Voilà, c'est un peu long,
Ok.
mais voilà.
Mais ça résume bien la situation.
À
Et
fait.
pour te retrouver, donc je vais mettre tout dans les commentaires. Est-ce que tu as quelque chose à préciser, une actualité peut-être que tu voudrais nous communiquer?
Pas dans l'immédiat. Il va y avoir. Alors, je vais participer à une journée bien-être qui aura lieu le 2 juin à La Garde. Donc, je pense que tu y participes aussi. Donc, tu pourras
Oui,
donner
tout à
les
fait.
informations. Et donc, voilà, plusieurs activités seront proposées, comme des cours de yoga. Donc, moi, ce que je proposerai, donc, c'est des séances de massage d'une vingtaine de minutes pour la découverte du massage bien-être. Et donc voilà, si vous êtes
Donc pour ceux
intéressé,
qui veulent te rencontrer,
ce
rendez-vous le
sera
2 juin.
à La
Ce
Garde,
sera
donc
au
à côté de
plan de la
Toulon.
garde.
C'est
Tout
ça,
à fait,
pas
mais
loin de.
je donnerai toutes les infos en temps voulu. Pour l'instant, ce n'est pas encore exactement voilà, délimité, mais je donnerai les infos sur mon compte Instagram notamment. Puis j'imagine que tu relaieras aussi l'information
Exactement.
sur tes réseaux.
C'est ça.
Parfait. Écoute, je te remercie pour cette interview particulièrement riche. Il y a plein de choses à retenir. Et donc je le répète, mais je vais mettre tes recettes en commentaire. Il y aura la crème de banane et il y aura la crème de tapioca aux pommes. Voilà, c'était pour finir sur une note sucrée.
Voilà, c'est ça, une recette
Merci
froide et une recette chaude.
Véronique.
C'était un vrai plaisir, Agnès, de partager avec toi et voilà, d'exposer toutes mes connaissances qui sont en grande partie personnelles et que j'espère
Eh bien,
qu'ils vous ont
merci.
intéressé.
Merci à toi, merci aux auditeurs. N'hésitez pas à me faire ou à faire à Véronique un retour. On est toujours très preneuse de ça. À très bientôt. Ciao,
Au revoir
ciao.
Agnès, bonne journée.